incroyable. On t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable, une pauvre fille anéantie par un pauvre diable. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables.
En direct des studios de Radio Galaxy, c'est l'heure de votre émission Info Énergie présentée par Arnaud Arvol. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Alors on rappelle que cette émission passe tous les premiers samedis 14h15, deuxième jeudi 9h30, troisième lundi 17h15 et quatrième mercredi 8h15. Aujourd'hui Arnaud, on va parler de quoi ?
Alors aujourd'hui nous allons parler de comment produire de l'eau chaude sanitaire via le soleil. Donc voilà, il nous a paru intéressant d'aborder ce thème de la production d'eau chaude solaire notamment, car le soleil étant une ressource donc gratuite et disponible pour tous, il serait dommage de ne pas en profiter.
Donc peux-tu nous dire quelles sont les raisons pour opter pour un chauffe-eau solaire, tout simplement ?
Alors oui, alors le chauffe-eau solaire est une solution de solaire thermique, ça c'est le terme un peu plus technique, qui est la plus simple à mettre en œuvre. Donc grâce à un principe très fiable, il permet donc de chauffer une partie de l'eau chaude sanitaire de la maison, gratuitement, puisque cette énergie est produite via le soleil. Donc la première raison pour opter pour un chauffe-eau solaire est tout simplement que c'est un équipement très fiable et robuste. Donc ce sont des technologies très simples. Donc ce qui a l'avantage, c'est que ce chauffe-eau solaire peut couvrir selon la région. Après qu'on habite dans le nord de la France ou dans le sud, là nous on va se concentrer plutôt sur le sud de la France, et de la taille de l'installation. Avec ce genre de système-là, on peut couvrir entre 50 et 80% de nos besoins annuels en eau chaude sanitaire, donc ce qui est relativement important. Il est également important de savoir que pendant la belle saison, donc la saison estivale, ce genre de système-là vous permettra de produire la totalité de vos besoins en eau chaude. Donc, c'est-à-dire que pendant l'été, le gros avantage, c'est qu'on pourra couper son système d'appoint, qui peut être une chaudière au gaz, au fioul, peu importe, ou un chauffe-eau électrique. Ça nous permettra d'être couvert à 100% par le soleil, donc zéro dépense au niveau de la facture. Donc ensuite, ce qui est intéressant avec ce genre de système-là, c'est que s'ils sont bien conçus et bien utilisés et régulièrement entretenus, bien évidemment, les éléments de ces chauffe-eau solaires ont une durée de vie relativement longue. On parlera de 20 à 30 ans pour les capteurs solaires qui, eux, sont installés généralement sur votre toit. On parlera d'une durée de vie de 15 à 20 ans pour le ballon, donc le ballon, lui, qui sera là simplement pour stocker l'eau chaude qui sera produite par le soleil. Et ensuite, pour tous les organes, on va parler donc de régulation, de circulateur, donc tous ces petits organes-là, eux ont une durée de vie de l'ordre de 10 ans, voire même un petit peu plus. Donc on voit que c'est un système très fiable, qui tient très bien dans le temps. Il y a quand même très peu d'entretien à effectuer sur ce genre de matériel-là. Donc c'est quand même relativement intéressant de se pencher dessus. Ensuite, la deuxième raison pour opter pour un chauffe-eau solaire est tout simplement que c'est un système donc écologique, puisque à l'heure actuelle on parle aussi beaucoup d'environnement, réduire ses factures d'énergie, ses empreintes carbone, etc. Donc c'est un système qui répond très bien à cette problématique-là. Donc voilà, comme je le disais précédemment, le chauffe-eau solaire consomme très peu d'électricité, hormis le petit circulateur qui lui sera là pour faire circuler l'eau dans le circuit, mais ce qui est très faible. Ce système-là ne rejette aucun dioxyde de carbone, c'est-à-dire le fameux CO2 dont on vous parle aux informations ou ailleurs. Ce système-là n'en rejette pas du tout. Il n'y a pas de polluants non plus qui sont émis lorsqu'il fonctionne. Donc voilà pourquoi on qualifie ce système-là d'économique, écologique et environnemental. L'autre aspect, c'est qu'il diminue également donc les rejets de gaz à effet de serre liés à la production d'eau chaude sanitaire, puisque généralement on utilise soit une chaudière, donc gaz, fioul ou autre, ou bois éventuellement, ou alors on est plutôt sur un chauffe-eau électrique. Ça permet de diminuer fortement les gaz à effet de serre. On parlera de l'ordre de 45 à 70% suivant l'appoint utilisé. En ce qui concerne donc l'énergie utilisée donc pour fabriquer l'équipement est compensée par sa faible consommation durant son fonctionnement, durant sa durée de vie. Au final, c'est un système qui consomme beaucoup moins d'énergie qu'un ballon électrique classique ou qu'un chauffe-eau à gaz, comme certains d'entre vous peuvent en être équipés. Et ensuite, donc le matériel qui constituent donc ces chauffe-eau solaires, la grande majorité, c'est quand même ces fameux capteurs solaires, eux sont en grande majorité recyclables. Il y a très très peu, c'est infime, on parlera peut-être de 3 ou 4% du matériau, enfin des matériaux utilisés qui ne seront pas, voilà, qui ne sont à l'heure actuelle pas recyclés en totalité.
Et est-ce que tu peux nous dire quel est le principe de fonctionnement d'un chauffe-eau solaire maintenant ?
Oui, alors le fonctionnement de ce système-là est assez simple. Comme je le disais précédemment, vous avez les capteurs solaires, eux, qui sont installés, donc bon, généralement c'est installé sur votre toiture. Leur rôle à eux, ça va être de transformer le rayonnement solaire, les rayonnements du soleil qui vous arrivent directement sur les capteurs, en chaleur. Au contact de ces capteurs-là, on va faire circuler un fluide. Alors le terme technique, c'est un fluide caloporteur, c'est ni plus ni moins que de l'eau, hein, à laquelle on rajoute un autre produit pour éviter que ça gèle durant l'hiver, mais sinon c'est de l'eau, hein, de l'eau classique, qui va circuler dans les panneaux et qui va se réchauffer au contact de ces capteurs-là. Et donc ensuite, cette eau, on va venir la stocker dans le ballon tampon, hein, et ensuite, grâce à un petit organe qui s'appelle donc un échangeur, on va transférer toute la chaleur de ce circuit-là dans le volume d'eau du ballon, pour permettre justement au ballon de monter en température. Et ensuite, cette eau va repartir dans les capteurs et on continue le processus. Voilà, on réchauffe dans les capteurs, on vient stocker dans le ballon. Dans le ballon, un échangeur qui, lui, a la capacité d'extraire au maximum les calories donc, de ce fluide pour les transférer donc, au ballon et on réinjecte dans les capteurs. Donc voilà un petit peu le principe de fonctionnement de ce ballon-là. Et ensuite, vous avez tout simplement un système de régulation qui est installé au niveau du ballon et des capteurs. Le rôle de cette régulation-là va être de donner la priorité à l'énergie solaire, voilà, pour produire au maximum de l'eau chaude via le solaire, pour éviter d'avoir à enclencher l'appoint au maximum. Et tout simplement, quand le soleil ou l'ensoleillement est insuffisant, hein, ben cette régulation va envoyer le signal à l'appoint, qui peut être une chaudière ou tout simplement une résistance électrique, de s'enclencher pour compléter le petit complément qui sera à faire pour monter votre eau à la température souhaitée. Voilà, pour faire assez simple, le principe de fonctionnement d'un chauffe-eau solaire.
Alors, si je souhaite opter pour ce type de système, quelle est la recette d'une installation réussie ?
Alors, pour bien réussir son installation d'un chauffe-eau solaire, il y aura trois points sur lesquels il faudra apporter une attention particulière. Donc la toute première, ça va être de bien dimensionner les capteurs solaires qui sont installés sur votre toit. Alors pour faire assez simple, le surdimensionnement, c'est le défaut le plus fréquemment constaté lors d'une installation d'un chauffe-eau solaire. On se dit, eh ben, super, plus je vais mettre de capteurs, plus je vais produire de l'eau chaude. Alors c'est le cas, seulement il faut vraiment adapter la surface des capteurs à nos besoins. Car des capteurs qui vont être surdimensionnés vont engendrer un surcoût déjà à l'achat. Vous allez payer bien plus cher votre installation, donc ce n'est pas le but non plus. Et surtout, ça va engendrer, si vous voulez, un risque de surchauffe, notamment pour la période estivale. Si on mettait trop de capteurs, peut-être qu'en une heure ou deux, en période estivale, ben, votre ballon sera chauffé en totalité. Donc après, votre capteur continue à faire chauffer le fluide. Donc c'est-à-dire qu'on va continuer à monter en température, ce qui n'est pas bon pour l'installation. Donc après, on va être obligé soit de vidanger le système, etc. Donc première chose, c'est vraiment bien dimensionner les capteurs en fonction de vos besoins. D'autre part, si votre installation est trop importante donc, ben, par rapport à vos besoins d'eau chaude, hein, sanitaire, la production solaire du coup n'est plus du tout efficace. C'est-à-dire que cette production se déclenche seulement quand les capteurs, enfin, ou du moins quand le capteur est plus chaud que le ballon. Donc si le ballon reste chaud en permanence, du coup vos capteurs ne vont plus se déclencher et du coup vous perdez en rendement de l'installation. Des capteurs bien dimensionnés est très important, de manière à économiser au maximum l'énergie d'appoint et d'utiliser le fonctionnement au maximum de cette production-là. Donc ensuite, au niveau du dimensionnement, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais lorsqu'on se situe dans le sud, comme dans notre région à nous, hein, généralement les capteurs pour produire entre 40 et 60 litres d'eau chaude à 50 degrés par jour et par personne, on est sur une surface estimée entre 2 et 3 mètres carrés grand maximum suivant l'orientation. Ensuite, le deuxième point sur lequel il faut être vigilant, ça va être l'orientation de ces capteurs. Donc dans l'idéal, les capteurs doivent être orientés donc plein sud, avec une inclinaison comprise entre 30 et 45 degrés par rapport à l'horizontale, puisque cette efficacité-là, hein, va évoluer en fonction de l'inclinaison donc, de vos capteurs. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on est légèrement orienté à l'est ou à l'ouest, l'installation fonctionnera très bien. Soit on dimensionnera un petit peu plus les capteurs, puisque la perte de rendement qu'on aura liée à l'inclinaison, on va le regagner par rapport à la surface des capteurs. Et ensuite, on peut jouer également sur l'inclinaison, suivant à quelle saison on veut avoir le meilleur rendement de l'installation. Voilà, si par exemple on veut que notre eau chaude soit la plus performante en hiver, on aura tendance à l'incliner un petit peu plus et se rapprocher plutôt des 60 degrés d'inclinaison. Et en revanche, si on veut plutôt avoir une orientation maximale l'été, ce qui n'est pas recherché dans notre région, hein, puisque nous il fait très beau l'été, là on se rapprochera des 30 degrés. Donc le meilleur compromis dans nos régions, c'est 45 degrés d'inclinaison. Meilleur compromis entre période estivale et hivernale. Et ensuite, le dernier point de vigilance à avoir lors d'une installation, c'est toujours pareil, un ballon tampon, hein, donc bien dimensionné et bien isolé. C'est-à-dire qu'avec un ballon, toujours pareil, hein, qui sera surdimensionné, la consommation d'appoint est plus importante. Donc c'est pas le but non plus recherché. Et ensuite, voilà, pour réchauffer et maintenir à température l'eau, etc., voilà, on consommera plus d'énergie, donc ce qui n'est pas le but. C'est-à-dire que dès qu'on parle de matériel écologique, économique, etc., il faut toujours trouver le meilleur compromis entre le dimensionnement des capteurs ou le dimensionnement d'un système, hein, en général, hein, ça peut être le cas aussi pour du photovoltaïque, enfin pour tout autre système, et nos besoins à nous. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut toujours avoir en tête. Pour en revenir un petit peu au ballon, hein, donc tout ce qui est tuyauterie et le ballon de stockage, dans l'idéal, ils doivent être donc bien isolés, afin voilà, de réduire les pertes de chaleur, soit liées à la tuyauterie ou dans le stockage du ballon. Ensuite, les autres points à prendre en compte, c'est d'essayer d'installer ce ballon d'eau chaude le plus près possible des points de soutirage. Donc l'idée, voilà, si vous avez un local technique, c'est bien de le positionner, je parle quand on est en construction ou même quand on réfléchit à l'implantation, le plus proche par exemple de votre salle de bain, puisque c'est à cet endroit-là où vous puiserez le plus d'eau chaude via les douches, etc. Donc l'idée, voilà, c'est d'avoir votre ballon de stockage le plus près possible de tout ce qui est points de soutirage. Également le plus près des capteurs, parce que plus vous avez les capteurs qui sont éloignés du ballon, plus on va mettre en place de la tuyauterie et plus on va perdre de la chaleur lors du transport de l'eau des capteurs jusqu'au ballon. Et donc voilà, ça aussi c'est un point à prendre en compte. Et ensuite, dans l'idéal, si on peut installer le ballon soit dans un local chauffé ou au moins dans un local isolé, ça aussi c'est plutôt intéressant, ça évite ce qu'on appelle les pertes de charge liées au ballon. C'est-à-dire que quand votre ballon est chaud, hein, s'il est dans un endroit très froid, il aura forcément des pertes de chaleur plus importantes que s'il était dans un local chauffé. Donc tout ça c'est de l'optimisation qui permet de réduire au maximum les pertes de chaleur et vous du coup d'économiser le plus possible sur votre facture, que ce soit d'électricité, de gaz ou autre énergie. Pour conclure au niveau de chronique sur l'eau chaude sanitaire et pour éviter de trop rentrer dans les détails et que ça devienne un peu plus complexe, je vais inviter donc toutes les personnes qui seraient intéressées par ce type de système ou qui souhaiteraient tout simplement en discuter pour aller plus loin et pour avoir plus d'informations là-dessus, de nous contacter directement. Donc, et puis pour rappel, hein, je tiens quand même à le rappeler, hein, les services de l'espace Info Énergie, hein, est un dispositif entièrement gratuit, neutre et indépendant, et qui est soutenu notamment par l'ADEME et la région Occitanie. Donc profitez-en.
Eh bien justement, peux-tu nous rappeler les coordonnées pour joindre l'espace Info Énergie du Pays Sud Toulousain ?
Alors oui, donc si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, ou même pour aller plus loin, vous avez un projet de rénovation ou toute question liée à l'énergie, aux aides financières mobilisables pour un éventuel projet de rénovation ou d'énergie renouvelable, là-dessus, vous avez trois possibilités pour nous contacter. La première, c'est tout simplement par téléphone au 05 61 97 34 20. Vous pouvez également le faire directement par mail à l'adresse suivante infoenergie@paysudtoulousain.fr ou alors allez directement sur notre site internet www.objectifreno.fr.
Justement, l'espace Info Énergie du Pays Sud Toulousain organise des permanences aussi décentralisées sur le territoire. Est-ce que tu peux nous donner les dates et les lieux des prochaines ?
Oui, tout à fait. Alors, pour le mois de septembre, vous aurez la possibilité de nous retrouver, hein, tout simplement, le jeudi 6 septembre à Carbonne, donc dans les locaux de la communauté de communes du Volvestre, de 9h à midi. Vous aurez la possibilité également de nous retrouver donc ce même jeudi, hein, le jeudi 6 septembre, sur la commune d'Hauterive, dans les locaux de la communauté de communes Bassin Hauterivain, de 14h à 17h. A noter que lors de cette permanence-là, il y aura également la présence de l'ADIL, l'Agence départementale de l'information au logement, pour toute question juridique notamment, et également du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, pour toute question liée notamment à de l'architecture, un projet de construction ou autre. Le jeudi 13 septembre, vous aurez la possibilité de nous retrouver sur la commune du Fousseret, dans les locaux de la mairie, de 9h à midi. Le jeudi 20 septembre, sur la commune de Cazères, dans les locaux de la communauté de communes Cœur de Garonne, de 9h à midi. Et enfin, pour le mois de septembre, vous aurez la possibilité de nous rencontrer le jeudi 27 septembre à Rium, dans les locaux de la Maison du Tailleur, juste en face de la mairie, de 9h à midi. Concernant le mois d'octobre, vous pouvez nous rencontrer le jeudi 4 octobre sur la commune de Carbonne, dans les locaux de la communauté de communes du Volvestre, de 9h à midi. Sur la commune d'Hauterive, de 14h à 17h, dans les locaux de la communauté de communes Bassin-Hauterivain, avec également la présence de l'ADIL et du CAUE lors de cette permanence-là. Sinon, vous aurez la possibilité de nous retrouver le jeudi 11 octobre sur la commune du Fousseret, dans les locaux de la mairie, de 9h à midi. Le jeudi 18 octobre, nous serons sur la commune de Cazères, dans les locaux de la communauté de communes Cœur de Garonne, de 9h à midi. Et enfin, pour ce mois d'octobre, vous pouvez nous rencontrer le jeudi 25 octobre sur la commune de Rium, dans les locaux de la Maison du Tailleur, de 9h à midi.
Merci Arnaud.
Mais merci à vous.
Une pauvre fille anéantie par un pauvre diable. Pitoyable, tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Une pauvre fille qui se maudit pour un pauvre diable. Pitoyable pour un pauvre diable.